Le gouvernement présente une série de grands projets pour le port autonome. Modernisation du terminal de commerce, développement des croisières, mais aussi la mise en place d'un pôle scientifique d'excellence. L'actualité religieuse, les catholiques entrent dans le Triduum Pascal trois jours avant Pâques, c'est aujourd'hui le Jeudi Saint. La messe commémorant la Sainte Cène sera célébrée ce soir à 18h à la cathédrale de Nouméa. En métropole, de mystérieuses inscriptions qui se cachent derrière la DDPF pour défense des prisonniers français. Des prisons, mais aussi des domiciles d'agents ont été ciblés par ce groupuscule. L'actualité judiciaire et Pierre Palmade de retour à la maison après 124 jours derrière les barreaux. L'humoriste bénéficie d'un aménagement de peine. Il purgera donc la suite de sa condamnation sous bracelet électronique. Le football, et on connaîtra ce matin l'adversaire du Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions, Real ou Arsenal. Avantage pour le moment aux Anglais qui se sont largement imposés à l'aller 3-0. Dans l'autre rencontre du jour, l'Inter Milan en ballotage favorable accueille le Bayern de Munich. Et après 30 minutes de jeu, il y a toujours 0-0 dans les deux rencontres. La météo en Nouvelle-Calédonie, excepté quelques nuages qui circulent sur le sud de la côte est, l'île des Pins est marée, le beau temps s'impose largement. Les températures sont proches des valeurs de saison et vont de 27 à 30 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité économique en Nouvelle-Calédonie.
Oui, avec ce séminaire dédié aux enjeux du financement des entreprises en Nouvelle-Calédonie. La FEDOM, la Fédération des entreprises des Outre-mer, en partenariat avec le MEDEF et la CCI, a tenté hier d'apporter un éclairage sur les différentes solutions qui s'offrent aux entreprises pour se reconstruire, Léo Fichou.
Les contraintes, difficultés d'indemnisation, restrictions assurantielles, accès aux crédits fragilisés sont nombreuses pour les chefs d'entreprise qui souhaitent redémarrer l'activité de leur société après les émeutes de mai 2024. Il faut donc aller vite, que cela soit au niveau du financement public et privé ou dans les démarches administratives. Allez vite, allez de l'avant, regardez l'avenir, a insisté Hervé Mariton, le président de la FEDOM, qui estime qu'il faut prendre des mesures, mais surtout avancer étape par étape.
Soit on capitule, soit on regarde l'avenir. Et l'avenir, ça s'appelle l'attractivité. Et donc moi, ce que je retiens, c'est qu'il est important d'avancer sur une étape intermédiaire pour la reconstruction économique de la Nouvelle-Calédonie. Il y a des solutions à trouver pour que l'accès au crédit se fasse de manière moins coûteuse aujourd'hui, pour que la difficulté d'accès aux assurances et que la rapidité de réponse des assurances soit mieux au rendez-vous demain, pour que les dispositifs d'aide fiscale à l'investissement soient plus opérationnels. Mais tout ça est conditionné par le budget 2026 de l'État. C'est loin, ça. Donc il faut absolument qu'on marque des étapes intermédiaires.
S'il le faut, Hervé Mariton n'exclut pas la proposition d'un projet de loi pour cadrer et accélérer le dispositif d'aide à l'investissement dans la réhabilitation et la restructuration des commerces.
En bref, signe d'une économie en berne, l'activité bancaire est en forte baisse. L'IOM note un repli de 48,8% des crédits en 2024 par rapport à l'année précédente. En cumul sur l'année, la production de crédits s'établit à 87 milliards de francs. Signalons que les prêts personnels à la consommation ont légèrement augmenté au quatrième trimestre. L'IOM qui note que ce recul historique des crédits pèse fortement sur l'encours de crédit, c'est-à-dire le volume total d'argent qui reste à rembourser sur les crédits calédoniens, qui baisse de 3,6% en glissement annuel. Et puis les difficultés financières de la bibliothèque Bernheim. Les membres du conseil d'administration de la bibliothèque n'ont pas adopté le budget 2025 de l'établissement public. Plusieurs collectivités ont revu leur dotation à la baisse en raison des difficultés budgétaires qu'elles rencontrent. Il manquerait près de 90 millions de francs pour assurer le financement de l'année 2025 de la bibliothèque. Dans ce genre de cas, le haut-commissaire dispose d'un délai d'un mois pour évaluer la situation. Il pourrait ensuite décider de placer la bibliothèque Bernheim sous tutelle.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, notre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Après le séminaire de la FEDOM, pensez-vous que la Nouvelle-Calédonie dispose de leviers suffisants pour rassurer les investisseurs privés en vue de la reconstruction? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Je vous donne maintenant la réponse à notre question d'hier. 92% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent qu'avec la fuite du projet d'accord qui devait rester confidentiel ou encore les attaques contre les pages Facebook de Sonia Backès et des Républicains Calédoniens, nous sommes face à une tentative de déstabilisation. Ils sont 8% à penser que ce n'est pas le cas. Pendant ce temps-là, les discussions sur l'avenir institutionnel se poursuivent. Une nouvelle réunion plénière sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie s'est déroulée hier en fin d'après-midi en visioconférence au commissariat. Elle s'est tenue en présence des différents groupes politiques et du ministre des Outre-mer, Manuel Valls. À l'ordre du jour, le corps électoral et la citoyenneté calédonienne. Une nouvelle réunion aura lieu demain à partir de 17h au sujet des compétences régaliennes. Je le disais en titre, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie s'est réuni hier matin pour sa séance hebdomadaire à retenir un projet de délibération ayant pour objectif de valoriser la scorie de nickel à l'export en révisant les tarifs du droit de quai, mais aussi un arrêté pour la mise en place par les gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité, EEC et Enercal, de compteurs d'électricité communicant d'ici le 30 juin 2026 sur l'ensemble du territoire. Une mise en place qui doit permettre aux gestionnaires de réseau de faire des économies en réalisant certaines interventions à distance, mais aussi aux clients de mieux contrôler leur consommation et enfin de bénéficier à terme de tarification jour-nuit. À l'issue de la conférence de presse hebdomadaire animée par le porte-parole du gouvernement, Christopher Gigès, Samuel Népéoun, en charge notamment des infrastructures maritimes et portuaires, a présenté une série de grands projets pour le port autonome, Léo Fichou.
Véritable pilier économique de la Nouvelle-Calédonie, le port autonome doit, dans les années à venir, se moderniser afin de renforcer son rôle central dans le commerce, la croisière, l'innovation maritime et l'aménagement urbain. Le port dispose d'un potentiel de développement inégalé dans le Pacifique, notamment en lien avec sa situation géographique, mais aussi ses infrastructures, ses deux rades et son domaine terrestre de plus de 80 hectares. Pourtant, plusieurs segments restent encore sous-exploités. La transformation du port autonome s'articule autour de 5 axes de développement stratégique, dont le développement des activités de croisière pour renforcer l'attractivité touristique de la Nouvelle-Calédonie. Écoutez Samuel Népéoun.
La partie croisière nécessite qu'on révolutionne quasiment l'organisation du port, puisque vous savez qu'aujourd'hui 80% du trafic est en grande rade et 20% du trafic en petite rade. L'idée, c'est d'inverser la tendance pour permettre d'accueillir les croiseries dans de meilleures conditions. Et ça relie avec un des points majeurs de la volonté de se transformer du port en lien notamment avec la mairie de Nouméa, c'est la vision d'un port ville, une vraie ville portuaire, avec une ville qui est ouverte vers la mer.
Autre axe de développement envisagé, la modernisation du terminal de commerce pour accueillir des porte-conteneurs plus grands, mais aussi pour sécuriser et fluidifier les échanges. La création aussi d'un pôle scientifique et technique à vocation régionale. Et puis renforcer également la filière de maintenance et de déconstruction navale des navires. On retrouve Samuel Népéoun.
La déconstruction pour la partie flotte de navires en Nouvelle-Calédonie, l'activité nautique en Calédonie et de plaisance, on le connaît. Et en même temps, nous avons des discussions avec notamment la Marine nationale qui ont des navires à déconstruire et qu'on pourrait, d'entrée avec des infrastructures adaptées, pouvoir s'attaquer à ce genre de sujet. Il est question notamment de déconstruire deux pécastans de la Marine nationale. Ce sont des sujets peut-être encore un peu en discussion, mais c'est intégré dans les projets de développement du port.
Et avec ces projets, le port autonome s'inscrit dans une dynamique de croissance durable au service de l'économie, de l'emploi et de la transition écologique. Samuel Népéoun qui souhaite qu'à terme, le port autonome devienne un port de référence dans le Pacifique Sud.
Vos rendez-vous sur notre antenne, c'est le capitaine de vaisseau Makara Hook, le chef du service recrutement de la Marine nationale, qui sera notre invité du matin tout à l'heure à 7h30. Il est actuellement en visite sur le territoire pour inspecter le bureau de recrutement de la Marine nationale à Nouméa, qui est situé à la caserne Galipas-Bosque. Il vient aussi pour rencontrer les acteurs participant au renforcement du lien Armée-Nation-Jeunesse et présenter les différentes formations pouvant donner accès aux 80 métiers présents dans la Marine nationale, mais aussi les possibilités offertes en Nouvelle-Calédonie. Et puis du 11 au 14 juin prochain, 8 startups calédoniennes vont participer à Paris au Salon Vivatech, le plus grand événement européen dédié aux startups. Alors quelles opportunités cela représente pour elles? Quelles sont leurs perspectives de développement? Est-ce un handicap de développer son produit en Nouvelle-Calédonie? Rendez-vous ce midi dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Jean-François Baudin recevra 4 des 8 responsables de startups sélectionnés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour Vivatech. Jean-Simon Chaudier de Firetracking, César Delisle de Testeum, Atem Bellagi d'Optimal RH et Olivier Dabou de Bifor.
Radio Rythme Bleu, il est 6h40.
Dans l'actualité religieuse, c'est aujourd'hui le Jeudi Saint. Avec le dimanche des Rameaux, les chrétiens sont en effet entrés dans la semaine sainte qui se termine dimanche, le 20 avril, avec la célébration de la fête de Pâques. Mais auparavant, les catholiques participent à plusieurs célébrations au cours de ce que l'on appelle le Triduum Pascal et qui concerne le jeudi, le vendredi et le samedi saint. Le père Jean-Paul Pouillet revient sur la signification de ces trois jours particuliers.
Le jeudi saint, c'est la commémoration du dernier repas du Christ. Le vendredi, on revit sa passion, son chemin de croix, sa crucifixion sur le Golgotha et sa mise au tombeau. Le samedi saint est un jour de silence, de recueillement, on vit dans l'espérance. Et samedi soir et dimanche matin, eh bien, c'est la grande fête de Pâques. C'est vraiment l'aboutissement de cette semaine. Le Christ qui a traversé la mort est ressuscité et il nous permet à nous aussi de faire avec lui ce passage des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie.
Ce jeudi 17 avril, c'est donc le jeudi saint. La messe commémorant la Sainte Cène sera notamment célébrée ce soir à 18h à la cathédrale de Nouméa, mais aussi à Rivière-Salée, et à 18h30 à l'église du Vœu et à Saint-Jean-Baptiste de la Vallée des Colons. Il est 6h41, vous écoutez Radio Rythme Bleu, on va marquer une première pause publicitaire et ensuite ce sera l'actualité en métropole avec notamment cette enquête pour déterminer qui se cache derrière la DDPF qui revendique les attaques de prison en métropole.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête-à-tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lanzvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end.
Les opticiens mutualistes vous proposent des montures de marque classique ou tendance et des verres top qualité de nos verriers Zeiss ou Essilor. Chez les opticiens mutualistes, trouvez au juste prix les montures et les verres qui vous conviennent pour un vrai plaisir de voir. Les opticiens mutualistes à Nouméa, La Foy et Conné.
Faites plaisir à un ami avec un mois d'internet gratuit. Devenez parrain Lagoon et profitez d'un mois offert pour vous et le filleul.
Et c'est cumulable à volonté.
En plus, chez Lagoon, vous avez tout au même endroit.
Mobilis, internet, TV.
Les forfaits sont sans engagement et on s'occupe de tout.
Moins de papier, plus de zen.
Avec Lagoon, les bons plans font les bons amis. Pour en savoir plus, rendez-vous sur lagoon.nc/parrainage.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, 6h-8h, Nicolas Legrand.
La suite du journal avec l'actualité en métropole et Pierre Palmade retrouve son domicile. L'humoriste purge la fin de sa peine sous bracelet électronique. Il avait été condamné, souvenez-vous, à 2 ans de prison ferme pour le très grave accident de la circulation qu'il avait provoqué alors qu'il avait consommé de la drogue. Il n'aura passé que 128 jours derrière les barreaux avant de bénéficier d'un aménagement de peine. Après sa sortie, le comédien est très vite rentré chez lui. Stéphane Place pour Europe 1.
Le temps d'effectuer le trajet entre la prison de Gradignan et les boulevards bordelais, ce n'est pas très loin. Une grosse voiture noire, conduite par une proche, a déposé Pierre Palmade devant chez lui peu après 9h30. Le visage fermé, ses clés dans une main, un simple sac de supermarché en plastique dans l'autre. Le comédien a franchi le seuil de son échoppe sans un mot. Le quinquagénaire, qui porte désormais un bracelet électronique à la cheville, retrouve donc ce quartier où ses riverains avaient déjà l'habitude de le croiser avant son incarcération.
Par rapport à ce qui s'est passé sous l'emprise de la drogue, si j'ai cru comprendre. Je trouve que c'est très très peu par rapport effectivement à ce qu'il a occasionné.
Ça fait plusieurs fois que je le rencontre dans la rue. Très discret, on le sent très très mal à l'aise. Ça sert à quoi de condamner les gens à tant d'années de prison pour qu'ils ressortent quelques mois après avec un bracelet?
Même s'il a fait des choses très répréhensibles, la justice est passée. Voilà.
Détention à domicile sous surveillance électronique avec l'interdiction notamment d'entrer en contact avec les victimes de l'accident et des plages horaires donnant la possibilité aux comédiens de sortir de chez lui, mais les créneaux fixés par la chambre d'application des peines sont très stricts et ne sont d'ailleurs pas toujours les mêmes du lundi au dimanche.
Stéphane Place, le correspondant d'Europe 1 à Bordeaux. Gérald Darmanin pointe du doigt les narcotrafiquants. Le ministre de la Justice fait très clairement le lien entre le trafic de drogue et les attaques et dégradations de 9 prisons en métropole. Et depuis hier soir pour nous, ce sont même les domiciles des agents pénitentiaires qui sont ciblés. Un incendie a d'ailleurs été déclenché dans l'immeuble d'une surveillante de prison, avec toujours ces mystérieuses inscriptions DDPF pour défense des prisonniers français. Mais alors, où en est l'enquête ce matin, William Molinier ?
Eh bien, les enquêteurs se ressentent sur un groupe, un canal Telegram, dans lequel des profils très divers interagissent, ceux appartenant évidemment au narco-banditisme, d'autres plus idéologisés, anti-État ou contestataires violents, et même des individus qui tiennent des propos antisémites et victimaires, selon lesquels l'État serait islamophobe. Rhétorique propre aux frères musulmans, la lutte anticarcérale semble intéresser plusieurs pans d'activistes qui vont de l'antifasciste jusqu'à l'islamiste. Ont-ils des liens entre eux? Se sont-ils coordonnés? Ont-ils proposé des contrats à des petites mains des cités? C'est ce que cherchent à savoir les enquêteurs. De leur côté, les autorités renforcent leur vigilance. En région parisienne, le préfet de police Laurent Nunez a demandé à ses troupes de multiplier les patrouilles.
William Molinier, chef du service police-justice d'Europe 1. Emmanuel Macron a réagi sur le réseau social X avec cette phrase. « Certains cherchent à intimider nos personnels pénitentiaires. Ils seront retrouvés, jugés et punis. » L'enquête se poursuit sous l'égide du parquet national antiterroriste. Dans la série, Bercy cherche de l'argent pour boucler le budget 2026, l'épisode des niches fiscales. C'est la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, qui remet le dossier sur la table. Plus précisément, les dizaines de niches qui concernent moins de 100 contribuables, Baptiste Morin.
Oui, la ministre des Comptes publics l'affirme, il y aurait de quoi financer plusieurs milliards d'euros d'économies et donc de quoi financer des baisses d'impôts généralisées.
On a des dizaines de niches qui bénéficient à moins de 100 contribuables. Si on en supprime beaucoup, nous voulons pouvoir baisser les impôts. C'est 85 milliards d'euros quand même, hein, les 467 niches fiscales dont je vous parle. Donc vous voyez, si on en supprime 10%, ça fait quand même 8 milliards.
Bercy en est encore à l'inventaire, car ce que montre le dernier rapport de la Cour des comptes sur le sujet, c'est à quel point l'État manque de données. Les sages dénombrent bien 35 niches fiscales qui bénéficient à moins de 100 contribuables, mais ils en comptabilisent plus de 200 pour lesquels le nombre de bénéficiaires est tout simplement inconnu. Alors y a-t-il pour autant des perspectives d'économies importantes? Ce n'est pas sûr. Sur les 467 niches fiscales existantes, 15 seulement représentent plus de la moitié des 85 milliards d'euros de réduction d'impôts. Autrement dit, les niches les moins utilisées ont de fortes chances d'être celles qui ne coûtent en fait pas grand-chose à l'État.
Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1, et rajoutons cette menace du premier président de la Cour des comptes. Pierre Moscovici pourrait ne pas certifier les comptes de l'État si ses recommandations ne sont pas mieux prises en compte. L'Élysée a affiné sa communication autour de la fermeté sur le dossier algérien. L'entourage d'Emmanuel Macron parle de mesures symétriques nécessaires contre Alger, tout en refusant l'escalade et en affichant une volonté de dialogue. Alors que le régime algérien accuse dans un communiqué très officiel Bruno Retailleau de, je cite, « barbouzerie à des fins purement personnelles ». Selon Alger, il serait donc responsable de cette nouvelle brouille diplomatique. Emmanuel Macron soutient son ministre de l'Intérieur. Le président de la République dit être en phase avec lui. Même soutien affiché de la part de la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas.
Il n'y a pas d'affaire Retailleau, il y a une affaire d'escalade que nous regrettons dans les tensions entre l'Algérie et la France. C'est bien regrettable car nous étions partis sur une relation un peu plus apaisée, un peu plus constructive et j'appelle de mes voeux que cette relation redevienne constructive.
Toujours à ce sujet, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a également réagi à la réponse de la France qui a riposté après l'expulsion de 12 agents consulaires français d'Alger en renvoyant également 12 agents diplomatiques algériens chez eux.
La France considère et considérera toujours que c'est par le dialogue que les tensions peuvent être résolues. Pour dialoguer, il faut être deux, ça ne peut être à sens unique. Mais je le redis, en réagissant à une procédure judiciaire indépendante qui vise trois ressortissants algériens soupçonnés de s'être rendus coupables de faits graves sur le territoire national, les autorités algériennes ont brutalement dégradé notre capacité à dialoguer. Nous avons des accords qui régissent notre relations et nous exigeons que les autorités algériennes respectent ces accords. C'est la moindre des choses dans la relation que l'on peut avoir entre deux pays. Nous ferons tout pour que ces accords soient respectés et notamment en matière migratoire, en matière de réadmission des Algériens qui sont en France en situation irrégulière.
Et enfin, sur le cas de Boualem Sansal, l'Élysée déclare ne pas avoir d'autre choix que de s'en remettre à la clairvoyance du régime algérien pour espérer la libération de l'écrivain franco-algérien. Et enfin, l'actualité dans la région, Winston Peters, le chef de la diplomatie néo-zélandaise, poursuit sa tournée dans le Pacifique. Alors qu'il se rend à Port Vila pour des échanges avec le Premier ministre vanuatais, Jotam Napat, il a effectué un bref arrêt à Nandi, où il a dîné avec le Premier ministre fidjien, Sitiveni Rabuka. C'est la correspondance ce matin de Jean-Pierre Zajac.
Les deux hommes politiques ont profité de ce dîner pour réaffirmer le partenariat indispensable qui unit les îles Fidji à la Nouvelle-Zélande. Winston Peters a noté que les deux pays intensifient leur coopération pour relever ce qu'il a appelé les défis régionaux croissants. En ces temps incertains, a-t-il dit, les relations entre nos deux pays doivent être bénéfiques pour nos concitoyens et pour la région où nous vivons. Les deux dirigeants politiques ont également évoqué l'étroite coopération qui unit Suva et Wellington en matière de sécurité et de défense et leur lutte commune contre le trafic de stupéfiants et le trafic d'êtres humains. Ils ont également discuté des moyens à mettre en œuvre pour approfondir le développement économique des deux pays. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 6h passé de 51 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une dernière pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive avec évidemment ce matin du football puisqu'on joue sur les pelouses européennes. Les deux derniers quarts de finale, retour de la Ligue des Champions.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Envie de vivre l'aventure en Subaru sans que votre banquier se fasse harakiri ?
Jusqu'au 24 mai, ce sont les jours Banzai chez Subaru. Jusqu'à 500 000 francs de remise sur l'achat d'un Subaru Forester, Outback ou Crosstrek. Pour profiter de cette attaque éclair sur les prix, foncez tel un ninja chez Subaru au village automobile PK4 à Nouméa ou chez NC Motors à Koné.
Offre valable du 7 avril au 24 mai 2025 dans la limite des stocks disponibles et remises pouvant aller jusqu'à 500 000 francs selon les modèles, voire conditions en concession.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Urgence, pouvoir d'achat.
Maman, on peut jouer au jeu de Pâques ?
Quel jeu de Pâques, chérie ?
Le jeu de Pâques à Hyper Upaïta.
Jusqu'au 21 avril, venez jouer dans votre magasin Hyper Upaïta pour gagner 10 bons d'achat d'une valeur de 5 000 francs et 2 gros œufs en chocolat d'une valeur de 9 600 francs.
Profitez aussi des promos de folie avec des œufs en chocolat à petit prix.
En plus, Hyper Upaïta sera exceptionnellement ouvert lundi 21 avril de 8h à 13h.
U, commerçant autrement.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon, Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
L'actualité sportive, c'est la suite d'Info Matin. On retrouve Nicolas Legrand.
Avec du football ce matin, puisque ça joue sur les pelouses européennes, je le disais, les deux derniers quarts de finale. Retour de la Ligue des Champions, Léo Fichou.
Real Madrid, Arsenal, Inter de Milan, Bayern de Munich, deux affiches qui font rêver entre quatre des plus grosses écuries européennes. Malheureusement, il n'y a toujours pas de but sur les deux pelouses. On va aller du côté de l'Espagne d'abord. Le Real Madrid devait réaliser un tour dont seul le club merengue a le secret, à remonter 3 buts en 90 minutes, puisqu'à l'aller, les Gunners d'Arsenal s'étaient imposés 3-0. Le score donc à la pause 0-0 entre le Real Madrid et Arsenal. Arsenal qui a d'ailleurs raté un pénalty dans le premier quart d'heure à la 13e minute. Bukayo Saka qui a raté son pénalty 0-0. Donc, je rappelle que l'équipe qui se qualifiera affrontera le Paris Saint-Germain en demi-finale. Les Parisiens tombeurs d'Aston Villa hier. Et puis, dans l'autre quart de finale qui se joue actuellement, l'Inter de Milan reçoit le Bayern Munich. Les Milanais partaient avec un bel avantage puisqu'ils s'étaient imposés 2-1 à l'aller en Allemagne sur la pelouse du Bayern. L'Inter de Milan qui est pour le moment qualifié puisqu'il y a 0-0, c'est la mi-temps. Et l'Inter de Milan ou le Bayern Munich qui affrontera le Barça en demi-finale.
On parle de handball féminin maintenant. Léo, la Calédonienne Nora Folitou a signé son premier contrat professionnel.
Oui, l'annonce a été faite en début de semaine sur les réseaux sociaux de son club, le Toulon Métropole Var Handball. La jeune Calédonienne de 21 ans qui évolue depuis déjà 2 saisons en tant que stagiaire pro dans le sud de la France a signé son tout premier contrat professionnel. Un contrat d'un an pour la saison prochaine, une fierté pour l'arrière droite.
Quand tu reçois une demande comme ça, une proposition d'un premier contrat pro, bah, ça fait toujours plaisir quand tu viens de loin et que tu as sacrifié, entre guillemets, hein, pas mal de choses pour en arriver à là. Donc oui, tout de suite, tu es contente, tu es heureuse, tu es assez fière. Tu te dis, bah, enfin, ça commence. tu rentres dans le vif du sujet et franchement, bah, ça fait trop plaisir, quoi. Cette année, c'était un peu une année test pour moi parce que je suis entièrement avec l'équipe première. Du coup, je vis de handball comme toutes les joueuses pro. On a le même emploi du temps, on a les mêmes séances de muscu, les mêmes séances d'entraînement. Il n'y a pas de différence entre ce que je fais aujourd'hui et ce que je ferai l'année prochaine. Donc, je suis déjà prête à ce mode de vie. C'est juste que mon statut va changer. Je ne serai plus la joueuse du centre de formation stagiaire pro, mais je serai une joueuse pro de l'équipe.
Formée à Rivière-Salée, à l'ASPTT, Nora Folitou n'est pas la seule Calédonienne à évoluer en première division française. On retrouve notamment son amie Suzanne Wajoka.
Oui, bah Suzanne, au-delà du handball, c'est une très 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 bonne copine à moi. Donc c'est vrai que quand on ne se connaissait pas encore, c'était une joueuse assez inspirante pour nous. Quand tu es en Calédonie, que tu vois qu'une joueuse de chez toi, elle perce, elle avance dans le handball, bah, tu te dis pourquoi pas toi. Si elle peut y arriver, tu peux aussi y arriver. Et oui, on échange souvent sur nos matchs, on fait des retours de matchs toutes les deux, on se donne notre avis sur le match qu'elle a fait, par exemple. Moi, je lui dis ce que j'en ai pensé, et elle, pareil. Et oui, on se voit assez souvent, et sur les terrains ou dehors.
Et pour la suite, Nora Folitou a déjà des rêves plein la tête. L'équipe de France, pourquoi pas les Jeux Olympiques aussi. Mais elle garde les pieds sur terre et sait qu'il faut y aller progressivement. Ce week-end, elle affronte Saint-Amand avec son club de Toulon pour le compte de la 19e journée de championnat.
Et puis enfin de l'athlétisme avec des Calédoniens qui ont brillé ces derniers jours au championnat d'Australie. On revient sur leur performance.
Oui, Félix Vahi-Sosaya a remporté le titre de champion d'Australie Open de lancer de javelot. Il a établi la meilleure performance française de la saison avec un lancer à 79,78 m. De son côté, Vadim Strugar est lui devenu champion d'Australie des moins de 20 ans du décathlon. Il a aussi battu le record de Nouvelle-Calédonie avec 7000 points. Enfin, Aurore Manoufekai a décroché la médaille d'argent au lancer de poids. Durant le concours, elle a battu à 3 reprises son record personnel pour atteindre un jet à 14,73 m.
Merci beaucoup Léo Fichou. On termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et c'est du beau temps finalement.
Oui,
pour aujourd'hui.
Il y aura quand même des passages nuageux qui concerneront l'ouest de la Grande Terre et l'île des Pins déposeront, ce sera de rares ondées. Ailleurs, la journée commence sous un soleil généreux. Bonne nouvelle, sur la côte ouest et l'île des Pins, on parle du vent à présent, il sera orienté ouest pour ce matin autour des 10 à 15 nœuds. Ailleurs, il sera voisin des 10 nœuds, moins sur la côte est, mis à la part les rafales en sortie des vallées. Cet après-midi, excepté quelques nuages qui circuleront sur le sud de la côte est et l'île des Pins, ainsi que marée, le beau temps s'imposera largement sur le sud de la côte ouest, la région de Nouméa et l'île des Pins. Le vent sera orienté ouest, il se maintient autour des 15 à 20 nœuds. Sur les autres régions, ouest à nord-ouest, proche des 10 nœuds, voire plus, en sortie des vallées encore une fois. Et les températures pour terminer, en général, elles sont comprises pour ce jeudi 17 avril entre 27 et 30 degrés.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir suivi ce journal.